Platon, La République, œuvre pour l'oral de rattrapage du baccalauréat. Corrigé numéro 3, première partie de la fin du livre 6, l'analogie du soleil et du bien. Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez très bien. On va s'attaquer donc à l'explication de texte en tant que tel après les deux cours sur le contexte, contexte historique, et sur la synthèse de la République pour replacer l'extrait dans son contexte d'œuvre. Donc l'un des mots-clés de l'ensemble de cette fin de livre 6, c'est le terme analogie. Je crois que c'est une des questions d'ailleurs du questionnaire. Donc je vais y répondre tout de suite parce que c'est important. Une analogie, c'est un type de comparaison. Vous avez un repère, vous pouvez aller dans votre dossier notion repère, le repère analogie ressemblance. Donc d'abord je vous explique ce que c'est que l'analogie et ensuite l'intérêt de l'analogie et aussi son piège éventuel dans la réflexion. Une analogie, qu'est-ce que c'est? C'est un type de comparaison. Il s'agit de comparer en fait des rapports entre des choses de domaines différents. D'un point de vue formel, une analogie, ça se présente sous la forme A est à B, ce que C est à D. Je peux vous donner des exemples classiques. Les branchies sont aux poissons, ce que les poumons sont à l'homme. Autre exemple plus philosophique, on avait vu chez Marx un texte sur la religion où Marx disait que la religion était l'opium du peuple. Il s'agit là d'une métaphore et en fait les métaphores ce sont des analogies dont on enlève l'un des membres. Ici donc la métaphore c'est la religion, c'est l'opium du peuple. Si je la transforme en analogie, je pourrais dire que la religion est au peuple ce que l'opium est au drogué ou à l'opiumane. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? J'utilise un rapport bien connu dans un domaine qui ne correspond pas au domaine dans lequel je suis en train de parler pour éclairer un rapport difficile à cerner dans un autre domaine. Comme on voit bien quel est l'effet de la drogue sur le drogué, ça va permettre de comprendre l'effet de la religion sur le peuple et ça a donc un intérêt pédagogique. On va assez vite comme ça. C'est aussi pour ça que c'est le support de la métaphore qui donne une image extrêmement rapide et simple à comprendre, qui évite des discours peut-être un petit peu longs et rébarbatifs. Et on va très souvent utiliser notre analogie pour éclairer un discours abstrait ou qui serait trop abstrait. On va utiliser un rapport dans le monde concret, ici la drogue et le drogué, pour éclairer un rapport plus abstrait, ici touchant la question de la religion, la notion de religion. Mais l'analogie, elle peut aussi être assez trompeuse, notamment quand on va comparer ce qui n'est pas comparable. Un exemple classique, c'est ce qu'on appelle le point Godwin. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. C'est la tendance, à un moment donné dans une discussion, à utiliser une référence historique extrêmement lourde du type l'Holocauste, les nazis. On va comparer quelqu'un qui fait quelque chose de mal à un nazi, par exemple. Même si, comme vous le savez, je suis végétarienne, j'ai quand même un petit peu de mal avec les discours de certains végétariens ou véganes qui comparent les abattoirs ou les élevages en batterie à des camps de concentration. Là, je pense qu'on atteint clairement le point Godwin. Et même si on peut tout à fait dénoncer la cruauté envers les animaux, il n'est peut-être pas nécessaire d'aller jusqu'à ce type de comparaison. Donc on va souvent utiliser l'analogie pour provoquer des réactions, même si ces analogies sont assez abusives en réalité. Voilà, donc si ce n'est pas fait, je vous laisse ouvrir votre corrigé image, aller à la diapositive numéro 3. Donc, il s'agit de l'analogie du soleil et du bien que j'ai divisé en deux parties. Petit 1, l'analogie de la vue et de l'intelligence. Et petit 2, définition de l'idée du bien. Donc, la partie sur l'analogie de la vue et de l'intelligence, elle va de la ligne 4 à la ligne 19. Je vais lire ce début de texte. C'est Socrate donc qui parle et il parle avec Glaucon, son interlocuteur, qui ne dit pas grand-chose, hein, mais ça se passe très souvent comme ça entre Socrate et ses interlocuteurs. Socrate, tu sais que lorsque les yeux se tournent vers les objets qui ne sont pas éclairés par le soleil, mais par les astres de la nuit, ils ont peine à les discerner et semblent jusqu'à un certain point atteints de cécité, comme s'ils perdaient la netteté de leur vue. Regardons à présent la question A. Je vous demande, ligne 5, astre de la nuit, de quels astres précisément cette expression est-elle une périphrase ? Donc une périphrase, c'est une expression qui désigne autre chose. Quel est le point commun entre ces astres et le soleil et quelle est leur différence majeure ? Donc cette périphrase, c'est les astres de la nuit et qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente la lune, elle représente les étoiles. Et ce que je vous demande, c'est quel est le point commun avec le soleil. Donc le point commun, c'est que ce sont des objets éclairants, des objets lumineux. La lune, les étoiles sont lumineux, produisent de la lumière. Mais il y a évidemment une différence majeure, c'est que la lumière émise est une très 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 faible lumière et qu'elle ne permet donc pas une vision qui soit une vision nette, une vision où l'on distingue les choses, où on peut les discerner les unes des autres. Quand je suis dans le noir, il fait nuit, je me balade dans une forêt par exemple, ou dans mon jardin, à ce moment-là, je peux, s'il y a un objet un peu qui a l'air d'être enroulé à mes pieds, je ne saurais pas si c'est un serpent ou si c'est une simple corde, j'aurais du mal à discerner les choses. Discerner, distinguer, ça ce sont des verbes qu'on utilise très souvent en philosophie comme quand il s'agit de parler de la vision. Discerner, distinguer, ça veut dire savoir faire la différence entre des objets qui se ressemblent. Je vous embête souvent en philosophie avec les distinctions conceptuelles, par exemple distinguer le besoin et la pulsion, qui sont des types de désirs. Voilà, on utilise des mots souvent sans savoir tout à fait exactement quelles sont les différences entre eux, ce qui nous fait utiliser parfois l'un pour l'autre, et ça nous fait commettre des erreurs. Un peu comme si, en voyant un objet enroulé à mes pieds et ne sachant pas de quoi il s'agit parce que je n'arrive pas bien à le discerner, eh bien, je vais marcher dessus. Et si jamais c'est un serpent, eh bien, ce sera une très, très grossière erreur d'avoir marché dessus. On passe à la question B, ligne 4, ligne 9. Je demande quels sont les deux modes d'éclairage possibles des objets et quelles sont les conséquences sur celui qui exerce sa faculté de voir. Alors, les deux modes d'éclairage, c'est soit un éclairage fort, celui du soleil, soit un éclairage qui est un éclairage faible, celui des astres de la nuit. Et l'éclairage faible, il se trouve qu'il est nuisible au discernement et donc nuisible au plein exercice de la faculté de voir. Je vois plus ou moins bien, je vois bien, quand il fait jour, je peux voir si ma corde, enfin mon objet enroulé est une corde ou un serpent, mais s'il fait nuit, même si j'ai toujours la même faculté de voir, les conditions ne sont pas bonnes. Et du coup, ça me permet de répondre à ma question petit c, en quoi posséder une faculté ne suffit pas à pouvoir exercer cette faculté ? Donc, en général, nos facultés, elles ont besoin de conditions favorables pour s'exercer. La vue, j'ai déjà expliqué, mais si j'ai la faculté de nager, par exemple, si je sais nager, donc je possède cette faculté, eh bien, évidemment, si les conditions ne sont pas propices, c'est-à-dire que je suis dans une rivière, il n'y a pas assez d'eau, eh bien, je ne vais pas pouvoir exercer ma faculté et mon savoir nager. Pour utiliser un nouveau repère de notre programme de philosophie, le repère en puissance en acte. Je peux dire que ma faculté de nager ou ma faculté de voir, ce sont des puissances. Donc, en puissance, je suis voyant, je vois. En puissance, je sais nager. Mais en acte, je ne peux pas toujours être ni voyant ni nager. Ça dépend des conditions. Donc, les conditions extérieures me permettent ou pas d'actualiser ma puissance. On passe à la diapo numéro 5 et à la question petit d. Je m'intéresse à la ligne 12 et je vous demande quelle expression montre que l'argumentation de Socrate se fonde ici sur une analogie. L'analogie, j'en ai déjà parlé et j'ai déjà répondu à la question E qui suit. Donc, l'expression à la ligne 12, c'est « la même chose se passe ». La même chose, ça introduit une comparaison. On a là typiquement une des techniques classiques rhétoriques de Socrate. Il commence par nous parler de quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec ce dont on parlait il y a 2 minutes. On ne sait pas trop pourquoi, ça a l'air d'être une digression. Et en fait, en réalité, c'est une analogie. Il est en train de poser une analogie et on va revenir à notre discussion de départ. Donc, notre point de départ avant le texte que je vous ai donné, il s'agissait de parler de la connaissance humaine. Là, Socrate nous fait une digression sur les astres de la nuit, la vue, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis, en fait, il s'avère que c'était pour établir une analogie avec la connaissance. Cette analogie vision-intelligence, c'est pas Socrate qui l'a inventée, hein, elle est dans le langage, hein, quand on dit discerner quelque chose, ça vaut aussi bien pour la vue que pour la compréhension. Donc, pareil pour la lumière et la vérité, c'est vraiment des analogies extrêmement classiques, la vision, la lumière permettant de mieux comprendre ce qui se passe du côté de notre esprit et de l'intelligence et de l'intelligible. Si vous voulez représenter quelqu'un qui l'a hop à une idée, qu'est-ce que vous allez donc faire? Vous allez dessiner un bonhomme avec tac une ampoule qui s'allume au-dessus de sa tête, parce que avoir une idée, c'est comme si notre esprit là il s'éclairait en fait. Donc, comme nous avons une analogie, eh bien on va essayer de chercher toutes les équivalences entre ce qui relève du domaine de la vue et ce qui relève du domaine de l'intelligence. C'est ce que je vous demande à la question F. Alors, donc, du côté de la vue, nous avons la faculté de voir, et cette faculté de voir, si on compare au paragraphe consacré à la connaissance, ça correspond à ce que Socrate nomme l'intelligence. Le soleil, qui éclaire extrêmement fortement les objets, eh bien, ce sera le bien. Ça, c'est, attention, c'est vraiment la chose un peu difficile de toute cette séquence qui va de la fin du livre 6 au début du livre 7. Ce caractère un petit peu énigmatique du bien chez Platon et Socrate. Les objets éclairés par les astres de la nuit, ça correspond dans le texte, donc le petit paragraphe qui va de la ligne 12 à la ligne 21, c'est ce qui naît et périt. Il faut vraiment... Alors, qu'est-ce qui naît et périt? Eh bien, ce sont les objets de la nature. Nature, ça vient du verbe naître, en l'occurrence, c'est la même racine. Les objets naturels, ce sont des objets qui se créent et se détruisent, c'est ça le cycle de la nature, un peu comme les êtres vivants. Donc, les êtres de la nature, ils sont imparfaits, ils sont éphémères, ou en tout cas, ils ont une existence qui est limitée dans le temps. La cécité, alors, je vous rappelle quand même que la cécité, c'est le synonyme de l'aveuglement, c'est le handicap en fait, le handicap de la vue. Si je suis aveugle, je suis atteint de cécité. Et être atteint de cécité du point de vue de l'intelligence, c'est avoir des opinions. Chez Platon, dans la bouche de Socrate, en fait, les opinions, c'est pire que d'être ignorant. Quand je suis ignorant, je sais que je ne possède pas de savoir. Donc, finalement, je suis prêt à accepter la vérité quand elle arrivera. Mais quand j'ai des opinions, en fait, j'ai une croyance qui est fausse. Et le fait d'avoir cette croyance fausse, ça produit une résistance dans mon esprit. Et contrairement à celui qui est ignorant, eh bien, je vais m'accrocher à ma croyance fausse et ça m'empêchera d'atteindre, d'écouter la vérité et de l'accepter du coup. Je vous propose maintenant qu'on a fait cette petite traduction d'aller relire en fait ce passage, donc de passer à la diapo 3 et à partir de la ligne 12. Comprends que la même chose se passe à l'égard de l'âme. Quand elle fixe ses regards sur ce qui est éclairé par la vérité et par l'être, elle comprend et connaît. Elle montre qu'elle est douée d'intelligence, mais lorsqu'elle tourne son regard sur ce qui est mêlé d'obscurité, sur ce qui naît et périt, sa vue se trouble et s'obscurcit. Elle n'a plus que des opinions et passe sans cesse de l'une à l'autre. On dirait qu'elle est sans intelligence. Et on enchaîne avec la suite, c'est-à-dire avec la deuxième partie, définition de l'idée du bien. Il en a parlé, Socrate, tout à l'heure du bien. Il va falloir qu'on précise, je vous ai dit que c'était quelque chose de difficile, difficile à comprendre, d'un peu énigmatique. Donc, c'est l'objet de la deuxième partie du texte. On est à la diapo numéro 6. C'est la ligne 19. Tiens donc pour certain que ce qui répand sur les objets de la connaissance la lumière de la vérité, ce qui donne à l'âme qui connaît la faculté de connaître, c'est l'idée du bien. Considère cette idée comme le principe de la science et de la vérité en tant qu'elle tombe sous la connaissance. Et quelque belle que soit la science et la vérité, tu ne te tromperas pas en pensant que l'idée du bien en est distincte et les surpasse en beauté. En effet, comme dans le monde visible, on a raison de penser que la lumière et la vue ont de l'analogie avec le soleil, mais qu'il serait déraisonnable de prétendre qu'elles sont le soleil, de même, dans l'autre sphère, on peut regarder la science et la vérité comme ayant de l'analogie avec le bien, mais on aurait tort de prendre l'une ou l'autre pour le bien lui-même, qui est d'un prix tout autrement relevé. Sa beauté doit être au-dessus de toute expression, puisqu'il produit la science et la vérité et qu'il est encore plus beau qu'elle. Aussi n'as-tu garde de dire que le bien soit le plaisir. À Dieu ne plaise, mais considère son image avec plus d'attention et de cette manière. Vous voyez que j'ai mis en jaune et en bleu certains éléments du texte, donc c'est toujours cette technique consistant à faire des repérages d'expressions identiques qui permettent de mettre en évidence des points importants. On passe à la diapo numéro 7, donc question G. Ligne 21 à 24, je vous demandais de repérer tous les mots et les expressions qui montrent la supériorité de l'idée du bien sur la science et sur la vérité. Et je vous dis, c'est en jaune dans le texte, donc à la diapo numéro 6, vous avez une première expression, ligne 24, elle les surpasse en beauté. Deux, ligne 29, elle est d'un prix tout autrement relevé et sa beauté doit être au-dessus de toute expression. Et l'expression en dessous, plus beau qu'elle. L'idée du bien, donc, comme le soleil, c'est ce qu'il y a de plus haut, de plus beau, de plus lumineux, ce qui est supérieur, et il reste à savoir en quoi cette supériorité consiste. Et cette supériorité, c'est la supériorité de ce qui est un principe. Je vous ai demandé à la question H, ligne 21, que signifie le mot principe dans ce contexte ? Et je vous dis qu'il y a un indice à la ligne 30. Or, qu'est-ce qu'on lit donc à la ligne 30 ? On lit qu'il produit la science et la vérité. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le verbe produire. L'idée du bien est un principe producteur de toutes les autres idées que nous pouvons avoir, de la même manière que le soleil est un principe producteur de tout ce que nous voyons. Les êtres vivants grandissent, poussent grâce au soleil. Sans soleil, il n'y a pas une bonne partie de toutes les choses que nous voyons sur Terre. Et sans lumière, il n'y aurait, sans énergie en fait, il n'y aurait sûrement rien de l'univers. Le bien, c'est donc l'idée suprême, c'est l'idée productrice de toutes les autres idées. Mais bon, en fait, c'est un peu C'est un peu une pétition de principe, là, de la part de Socrate. Pourquoi le bien et pourquoi pas une autre idée? Pourquoi pas le beau? Ben, c'est ça, c'est la difficulté, c'est que c'est pas absolument explicité de la part de Socrate nulle part. Mais on peut quand même définir un peu la conséquence de cette hypothèse selon laquelle l'idée du bien, c'est l'idée suprême. Ça veut dire que, par conséquent, en fait, si le bien produit les autres idées, c'est que les autres idées, elles vont participer du bien. Donc, elles vont être bonnes. Toutes les idées sont bonnes et tous les êtres qui sont produits à partir de ces idées sont bons également, mais ils sont plus ou moins bons en fonction de leur éloignement par rapport au modèle initial. En fait, vous avez l'idée du bien, c'est le parfaitement bon. Entre parenthèses, vous comprenez peut-être pourquoi est-ce que Platon a été considéré comme un précurseur du monothéisme. En tout cas, il y a beaucoup de philosophes chrétiens qui, par la suite, ont considéré qu'il y avait dans cette idée du bien quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'idée de Dieu. C'est le principe producteur qui lui-même n'est produit par rien d'autre et il est infiniment bon. Et à l'autre bout de la chaîne, vous avez eh bien, le néant, le rien. Ce qui n'est rien, ce qui n'est pas bon, ce qui est rien, le néant. Et ben, plus on s'éloigne de l'idée du bien, plus on va avoir des êtres qui vont être des êtres périssables et qui vont être plus ou moins mauvais et plus ou moins imparfaits. Donc vous commencez à mieux comprendre la hiérarchie. Quand je tourne mes regards vers ce qui naît et périt, eh bien, je tourne mon regard vers des êtres qui sont des êtres beaucoup moins bons et beaucoup plus imparfaits que si je tourne mon regard vers les idées intelligibles qui, elles, ne naissent pas, ne périssent pas, mais sont éternelles. La table sur laquelle mon ordinateur est posé ou mon ordinateur, ce sont des choses périssables. Par contre, l'idée de table qui préside à la fabrication de la table ou l'idée de mon ordinateur, ça, ce sont des choses éternelles. Je vais pouvoir produire des tas d'ordinateurs sur le modèle de mon ordinateur, qui lui est périssable. Ce qu'il faut donc que vous compreniez, c'est que toutes les choses qui existent dans le monde sensible, visible, qui sont donc périssables, qui naissent et périssent, elles participent en fait d'idées qui sont des idées éternelles. Et mon ordinateur participe de l'idée éternelle d'ordinateur qui elle-même participe d'autres idées. Notamment en partie l'idée de calcul. Mon ordinateur produit beaucoup de calculs. On pourrait presque dire qu'il participe de l'idée d'intelligence et que c'est une forme d'intelligence artificielle. En fait, à chaque fois que je cherche à définir une idée, eh bien, je l'associe à des idées dont elle participe également et qui sont plus générales. Et donc, je vais comme ça d'idée en idée, d'une idée particulière à une idée plus générale, qui elle-même participe à une idée plus générale, et au bout du bout, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'idée de bien. On va prendre la question I, ligne 24-29. Je vous dis qu'il y a une analogie filée, c'est-à-dire que l'analogie de départ est continuée. Donc il y a une analogie filée entre le soleil et le bien, et je vous demande de retrouver les correspondances. Donc la lumière, qui est la lumière du soleil, et ça correspond dans le domaine de l'intelligence à la vérité, et la vue. Ça correspond, donc la vue c'est la faculté de voir et la lumière c'est la condition qui permet de voir. Donc la faculté d'intelliger, ça va être la science et la vérité, ça va être la condition qui permet la science. Ligne 24, on est à la question J. Socrate nous parle du monde visible. Et ligne 26-27, il nous parle de l'autre sphère. Il nous dit dans l'autre sphère. Ma question est, par opposition au monde visible, comment peut-on appeler cette autre sphère? Donc cette autre sphère, c'est le monde intelligible. Vous avez une comparaison. Toute l'analogie de cette partie, ça repose sur une comparaison entre le monde visible et le monde intelligible. Diapo numéro 8, question K, je vous demande, repérez tous les termes du texte ayant un rapport à la beauté. Combien en comptez-vous? Comment peut-on définir la beauté ici? Alors, si on retourne à notre diapo numéro 6, on voit qu'il y a au moins 4 occurrences, si j'en ai pas oublié, soit de l'adjectif beau, belle, soit du nom beauté. Alors tout à l'heure, je vous avais fait souligner les mots qui marquaient une supériorité. Ici, il s'agit de spécifier la supériorité. En fait, cette supériorité, c'est systématiquement une supériorité en beauté. Le bien est plus beau que la science et la vérité. Qu'est-ce que ça veut donc dire dans la bouche de Socrate? Parce que nous, quand on utilise le terme beau, en général, c'est pour qualifier un objet, une personne ou une œuvre d'art qui suscite en nous un certain sentiment de plaisir esthétique. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qui est beau? Ce sont des idées et on a du mal un petit peu à voir pourquoi, même si en effet, ça nous arrive d'être pris de ce type de sentiment un peu face à des paroles, face à des belles idées. C'est pour ça que la suite de ma question K consiste à essayer de définir la beauté ici. Je vous ai dit tout à l'heure que la beauté, c'était ce qui provoquait en nous une forme de sentiment particulier, de plaisir esthétique. Il y a un lien entre la beauté et le plaisir. La beauté, ça produit du plaisir. Mais quel type de plaisir? Là, il va falloir que je fasse une petite distinction conceptuelle. Et je dirais qu'il y a deux types de plaisir. Il y a un plaisir qui est un plaisir pris par le corps quand il consomme quelque chose de bon. Un bon éclair au chocolat, ça produit un plaisir qui est un plaisir corporel et ça me fait dire que cet éclair au chocolat, il est bon. Eh bien, pour la beauté, c'est un petit peu identique dans le sens où il y a une forme de plaisir, mais c'est un plaisir qui n'est pas pris à la consommation de quelque chose. C'est un plaisir qui est pris quand je contemple, quand je regarde et quand je prends du plaisir à regarder longuement un objet qui reste à distance. Et par conséquent, il y a une grosse différence entre ces deux plaisirs, c'est que le plaisir pris dans la consommation de l'objet bon, il est éphémère et il fait disparaître l'objet qui est bon, alors que le plaisir qui est pris au beau, il laisse l'objet beau exister et donc il peut en profiter toujours sur le long terme. Et le beau, ben, si le bon c'est un plaisir qui est éprouvé par le corps, en fait le beau c'est un plaisir qui est éprouvé, pour utiliser le langage platonicien ici, qui est éprouvé par l'âme et ça produit du bien dans l'âme. La science et la vérité sont beaux parce qu'ils produisent ce plaisir quand je découvre quelque chose, quand j'atteins la vérité, je suis heureux, j'éprouve du plaisir. Donc il y a une forme de beauté et évidemment le bien est suprêmement beau puisque c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le bien. On va passer à la question L, ligne 34 à 36, quels sont les deux pouvoirs du soleil? Alors, le soleil, premièrement, il rend visible les choses. Ça, c'est le premier pouvoir qui est ici défini. Et petit 2, il produit. Il donne vie aux choses. Ça signifie qu'il est à la fois le producteur des choses et le producteur de la connaissance des choses par la vision. Ça, c'est les deux pouvoirs du soleil. Et du coup, on va passer par analogie, question M. Par analogie avec le soleil, quels sont les deux pouvoirs du bien et à quoi fait étrangement penser ce bien? Donc, eh bien, le bien, comme le soleil, il rend intelligible, il produit la connaissance de ce qui est intelligible, il permet de comprendre les idées et il est également producteur de ses idées. Il produit leur être et leur essence, ça c'est dans le texte. Il produit les choses intelligibles. Donc pour conclure sur cette partie texte, vous voyez, j'espère, l'intérêt de l'analogie. Cette affaire de monde intelligible, de statut, des idées. Les idées, est-ce que c'est réel ou pas en fait? On a tendance à considérer comme réel le monde visible, le monde sensible, les choses que nous voyons. Et les idées abstraites, on les a dans la tête, mais on n'estime pas que ça existe. Alors que pour Platon, ça existe et c'est même encore plus existant. Ça a un degré d'existence, de réalité beaucoup plus élevé parce que les idées, elles, sont immortelles. Elles ne naissent pas, elles ne périssent pas, elles existent de toute éternité dans le monde des idées. Et l'analogie ici, elle sert à nous faire comprendre ce qui se passe dans cette dimension intelligible de la réalité. J'aime bien prendre, moi, cette image pour expliquer ce que c'est que le monde intelligible. On a des sens. Alors, on a plus que cinq sens, mais disons qu'on a cinq sens. On a des sens qui nous permettent de connaître le monde sensible et les choses. Et puis, il y a une autre dimension de ces choses. Elles n'ont pas qu'une dimension visible, une dimension audible. Elles ont aussi une autre dimension, ces choses, c'est leur dimension intelligible. Mon ordinateur, ce n'est pas simplement un objet que je perçois par le toucher, que je perçois par la vue. C'est aussi un objet que je peux essayer de comprendre et de définir par mon intelligence. C'est une espèce d'autre dimension et notre intelligence, c'est un peu comme un sixième sens, un sens qui sert à connaître la dimension intelligible des choses de la même manière que la vue nous permet de connaître la dimension visible des choses de la même manière que l'ouïe permet de connaître la dimension audible des choses. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu, c'est pas facile cette affaire hein, de bien, de dimension intelligible, des choses, etc. Et je vous conseille de faire une petite pause et on se retrouve pour le cours numéro 4 avec la deuxième partie de cet extrait du livre 6 qui correspond à la définition de la ligne de la connaissance.